Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis avec Bruno Tircuir. Salut.
Salut, bonjour.
C'est la deuxième fois qu'on se voit, hein. Alors quelques familiarités. Tu es le metteur en scène de la compagnie La Fabrique des Petites Utopies. Vous étiez passé l'année dernière pour faire une belle résidence et puis on avait parlé de Rue des Voleurs. Alors là, cette année, comment on dit, c'est une mainmise sur le théâtre de Die ?
Oh non, sûrement pas, sûrement pas.
Mais vous allez tout jouer en tout cas.
On va jouer beaucoup de choses, on a joué beaucoup de choses puisqu'on a répété cet été Un mystérieux voyage en forêt, qu'on a joué de village en village, mais tu ne m'as pas interviewé donc tu ne sais pas pourquoi on est venu.
Non.
Et puis on jouera pendant le festival de la transhumance, on jouera Nyama Nyama, dont je te parlerai peut-être si tu veux. Et puis là, on est là depuis presque un moi, pour reprendre un spectacle que j'aime beaucoup, nous sommes tous des K. K, la lettre.
Et là, il y a quand même une vraie démarche de coproduction qui se fait là, entre la Fabrique des Petites Utopies, le Théâtre de Die, différente de ce qui était l'année dernière.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on...
Explique-nous un peu ce que...
On s'est entendu avec Harold David et Isabelle Catois pour travailler ensemble, unir nos forces en ces temps de... où finalement les équipes artistiques ne sont pas toujours les bienvenues dans les théâtres, paradoxalement. Hein. Eux, ils avaient vraiment envie qu'il y ait une équipe associée. Et nous aussi, parce qu'on a souvent fait ça, d'être associés à des théâtres. Et là, on sentait une énergie commune, une envie de raconter le monde commune, une envie d'aller sur les territoires. Hein. On est équipé d'un camion théâtre, et puis vous verrez bientôt d'un chapiteau. On aime parcourir le monde, toute la dimension littéraire aussi, puisque tu vois, on réadapte un roman. Donc on est très proche artistiquement, raconter le monde par la littérature et le théâtre. On avait beaucoup de choses en commun, donc on s'unit pour 3 ans.
Avant, en tout cas, enfin l'année dernière, il me semble que vous étiez attaché à un théâtre à Grenoble. Quand tu parles d'équipe artistique, j'arrive pas bien à faire la différence entre une équipe artistique et une troupe, une compagnie. Est-ce que tu peux nous éclairer et puis aussi nous dire pourquoi, selon toi, les équipes artistiques sont pas tellement les bienvenues dans les théâtres ?
Tout simplement parce que c'est finalement assez rare d'être associé à un théâtre. C'est-à-dire qu'un théâtre, c'est un programmateur, une équipe de com, une équipe de médiation. Mais c'est rarement une troupe, une équipe artistique, c'est-à-dire des comédiens, des techniciens, des décorateurs. En France, ça s'est complètement perdu, ça. Et nous, notre collectif, notre troupe, d'une petite quinzaine de personnes sur les spectacles, eh bien, là, après avoir travaillé pour l'Heure Bleue de Saint-Martin-d'Hères pendant 3 ans, on a décidé de poser un peu plus nos bagages au Théâtre de Die. Et c'est une décision commune, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui le décidons tout seuls, il faut qu'il y ait ce désir-là de la part d'un théâtre d'accueillir, de mettre un peu plus de moyens sur une compagnie artistique.
Voilà, et c'est ce que tu disais, on t'appelle ça équipe artistique parce que vous avez déjà vos techniciens, vous
avez déjà
les décorateurs, tout ça.
C'est ouais. Ça.
Donc ça va se faire aux dépens des techniciens du théâtre finalement.
Pas du tout,
c'est marrant. Ou en association.
C'est vraiment en association. L'idée, là, ils ont été là pour finaliser la construction du décor, le montage du décor, etc. Ouais. Nous, au contraire, sur une grosse création comme celle qui vont arriver, on va avoir besoin d'unir nos forces. Notre chargé de communication ne prend pas le travail d'Alexandre, par exemple. Hein. Ils sont là plutôt pour mieux travailler ensemble que de le faire au détriment d'eux.
Et donc, c'est une coproduction après qui va permettre quoi, une tournée pour... Parlons très pragmatiquement pour la compagnie des Petites Utopies. C'est quoi le bénéfice direct là, en termes de création ?
Alors, d'une part, le bénéfice, si on peut appeler si on peut utiliser ce mot-là, c'est vraiment d'être dans des très bonnes conditions de travail. Donc ça, c'est un vrai bénéfice. C'est-à-dire que ensemble, très tôt dans la saison, on définit quand est-ce qu'on va pouvoir venir travailler et répéter. Donc cette année, 2 fois. Cet été pour créer un spectacle jeune public. Et puis cet hiver pour reprendre ce spectacle que j'aime beaucoup, Nous sommes tous des cas. Donc c'est une complicité déjà d'organisation et de projet dans l'avenir. On se projette davantage qu'avec un théâtre où on va juste tout simplement vendre notre spectacle. Là, on est dans la co-construction d'un projet, c'est pas rien. On sait déjà presque sur 2-3 ans ce qu'on va faire ensemble. Donc s'il y a un vrai bénéfice, c'est aussi cette projection dans le temps, c'est-à-dire se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble.
Et quand même une garantie et pour vous de tourner et du théâtre d'avoir une programmation qui va donc être suffisamment diversifiée parce que vous avez quasi tout joué de votre répertoire, quoi. Plus les créas.
C'est exactement ça. Donc c'est tu as raison, c'est une espèce d'échange vertueux en fait. On pense ensemble ce qu'on a envie de faire. Moi, je raconte les projets artistiques et ils deviennent ou pas fil rouge de tel ou tel événement. Enfin, voilà, on est en complicité. Et évidemment, pour être très pragmatique aussi, les partenaires financiers aiment beaucoup cette dimension-là parce qu'on a l'assurance que les spectacles vont exister, tourner. Donc, c'est quand même tout ça est vertueux, en fait. Hein. On revient à quelque chose qui était... De tout temps, un théâtre avait une équipe artistique associée. Mmh. Ça s'est un peu perdu.
Et du coup, vous allez les tourner aussi quand même, ces spectacles?
Bien sûr.
L'occasion qui a resté là pour nous.
L'exemple absolu, c'est celui dont on parlait il y a un an pile. Il y a un an pile, on parlait ensemble de Rue des voleurs, l'adaptation du roman de Mathias Sénard. Depuis, on l'a joué plus de 60 fois. Donc, à partir d'un long temps de travail que nous a permis le théâtre de Die ici, nous, on peut tourner longtemps nos spectacles. C'est-à-dire que si tu as une base où tu es dans des bonnes conditions pour travailler, bah, a priori, tu fais un meilleur spectacle que si tu n'as pas des bonnes conditions. Et du coup, le spectacle vit plus longtemps.
Alors, la fabrique des petites utopies est venue s'installer dans le Diwa, aussi les personnes.
Bien sûr.
Ouais, oui. On augmente la population locale.
Tu vois, là, ce mois-ci, je pense qu'on n'était pas loin de 30 supplémentaires. Ouais. Ouais. Bah oui, et quand on va être sur des grosses créations, ça peut aller jusqu'à 60 personnes qui habitent, qui consomment. En effet, l'impact de la création artistique est colossal. En fait, on reçoit moins d'argent public qu'on en dépense, souvent, puisqu'on en draine d'autres structures. Hein. Donc, quand on est en résidence, en effet, on redépense plus que ce qu'on coûte.
Voilà, moi je voulais que ce soit dit.
Oui, tu as raison.
Voilà. Alors, Bruno, discutons un petit peu de précisément là, cette résidence d'hiver, puisque nous sommes en hiver. Hein,
oui, oui.
Donc, vous êtes là pour Nous sommes tous des cas. D'où ça vient? Qu'est-ce que ce scénar? Comment l'as-tu choisi? Tout ça.
Alors, ce scénar, il est adapté par un auteur magnifique, Paul Aymon, qui a adapté le château de Kafka. Alors, le château...
Ah oui, oula.
Et ouais. Non, n'ayez pas peur.
Non, mais justement, c'est bien de l'avoir adapté, quoi.
Oui, mais en fait, le problème, on en parlait souvent avec Paul Aymon, il est belge, mais il a passé une longue partie de sa vie à Prague, où le roman a été écrit, hein, puisque Kafka est pragois, hein, pour pas dire tchèque, parce qu'à cette époque-là, c'est plus compliqué que ça. Mais donc Kafka est pragois, Kafka a l'humour pragois, Kafka est un mélange d'humour juif, d'humour de toute cette Europe de l'Est qui tourne en dérision le monde bien avant la Shoah. Donc il faut quand même voir que Kafka sent que on va aller vers un monde contemporain qui va aller de plus en plus mal, une administration qui va être dévorante. Lui, c'est un petit gars qui bosse dans les assurances et qui va vouloir dénoncer ce qui va être la catastrophe de notre siècle, le rejet de l'autre. Parce qu'il le voit venir, mais ça a continué. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'adapter le château, c'est que voilà, cette administration qui nous dévore, cette espèce d'impression que le pouvoir est partout, bah ça n'a pas changé depuis les années 20.
Ça, c'est pour le désir. Et donc, quelle est la patte
La patte fabrique des petites utopies, la patte Paul Aymon. Donc, Paul Aymon est belge, donc il a ajouté de l'humour belge. Donc, ça, c'est quand même pas mal.
C'est quoi pourquoi l'humour belge, pardon ?
Ah, écoute, c'est quand même, je sais pas, une espèce d'ironie comme ça face à notre monde, face là, il trinque en ce moment la Belgique et quand on discute avec Suzanne Aymon, puisque j'ai embauché sa fille en fait, qui est une comédienne superbe, elle tourne toujours tout en dérision. On rit de tout, notamment de ce personnage, puisqu'il faut parler du scénario absolument, ce cas qui arrive de loin pour un boulot, bah, tout d'un coup on veut plus de lui. On veut plus de lui dans ce village, ça pourrait être moi, ça pourrait être toi, hein. Hop, t'arrives dans un village, t'as une promesse de boulot et là on veut plus de toi. Et ce que fait Kafka, qui est extraordinaire, c'est qu'il nous fait faire une visite du village, de rencontre en rencontre, et seules les femmes vont accueillir K. Et ça, c'est assez beau. C'est à l'étranger, il est le bienvenu auprès des femmes, un peu moins auprès des hommes. Donc on a comme ça cette espèce d'immersion dans une... Alors maintenant, c'est devenu la France profonde. Ça pourrait être dit, ça pourrait être... Quand Kafka l'écrit, on sent que c'est un village de République tchèque, mais quand on l'a joué, quand on travaille ici, c'est ici que ça se passe. En plus, il neige tout le temps chez Kafka, donc là, c'est parfait.
Je vois même une allégorie complète à ce qu'on a vécu là, ces derniers temps, avec un certain nombre d'élections, hein, par exemple. On est complètement dans cette attitude-là en France. Tu parlais de petits villages, mais les grosses villes,
bien sûr. Alors, écoute, c'est vraiment ça. C'est que moi, je l'ai vécu, je l'ai lu, pour tout te dire. Je l'ai lu à Cotonou, j'étais au Bénin, et il venait d'être traduit. Et je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, depuis les années 20, ça n'a pas changé. Voilà. On rejette le gars qui arrive de loin, on lui promet un boulot, puis finalement, on n'a plus besoin de lui, et on lui fait comprendre qu'il est franchement indésirable. Et lui va lutter pour son statut, pour dire, mais non, moi, je suis venu, je suis là, je suis quelqu'un de bien, j'ai des compétences. Kafka montre que le gars qui vient, il a fait tout un voyage, il a fait toute une démarche, ça va être une force d'énergie. Et les seuls qui s'en rendent compte, ce sont les femmes.
Mais pourquoi cette personne est venue au départ? Elle a été appelée?
Ouais,
c'est pire encore.
Oui, c'est ça.
On connaît ça avec nos migrants, bien sûr, exactement. D'Afrique du Nord, pour c'est être ça. Vaste, quoi. Ouais, on les a fait venir et puis on n'en veut plus.
C'est ça. L'allégorie la plus forte, ce serait ça. Ouais. C'est toute cette population d'Afrique du Nord à qui on a dit venez bâtir nos villes et puis maintenant, allez, hop, rentrez chez vous. Voilà. Donc c'est vrai que c'est cette allégorie-là. Alors nous, on le traite avec du théâtre de masque, on le traite avec une espèce de grand guignol qu'est le monde. C'est un tréteau magique. Les personnages, j'ai 5 acteurs pour jouer, je ne sais plus, ils jouaient pas loin de 25 personnages. Ils sont extraordinaires et K est face à cette situation folle de se sentir de plus en plus rejeté.
Et tu as cité deux fois les femmes. Alors les femmes ont un grand rôle dans cet ouvrage et donc dans cette pièce.
Oui, parce qu'elles sont en même temps... c'est un énorme roman, c'est un roman de 600 pages, inachevé. Kafka écrivait ses cauchemars. Il écrivait la nuit, il écrivait toute la nuit. Et il expiait le cauchemar qu'il pressentait de ce que devenait le monde. Et c'était en même temps un grand séducteur, donc il lisait comme ça, il lisait dans les cafés, il lisait à voix haute, donc c'est assez facile à adapter parce que
c'est pour être récité, quoi.
C'est ça, c'est fait pour être lu à voix haute. Toutes ses nouvelles se lisent assez facilement aussi comme ça à voix haute. Et voilà, il faisait rire les femmes avec cet humour du dérisoire, du lamentable de la société, ce qui est devenu le mot kafkaïen, l'administration dévorante, les gratte-papiers qu'il fréquentait lui toute la journée et qui lui faisait écrire. Mais il ne voulait pas du tout être édité, d'ailleurs, il voulait que tout soit brûlé à sa mort. Et donc voilà, il y a trois femmes dans notre choix du roman. Il y a donc la femme qui tombe tout de suite amoureuse, le coup de foudre de l'altérité, tu veux dire, le gars qui arrive de loin et voilà, il est juste tellement différent, donc magnifique. Et ça, je pense que ça contribue au racisme. Mais pourquoi il plaît tant, ce mec qui arrive de loin? Et puis...
Il nous pique nos femmes.
Et moi, je suis sûr qu'il y a de ça partout. Il y a toujours eu ça. Et puis, il y a la femme... Alors ça, c'est Frida, vraiment. Dans le roman, c'est d'une sensualité extraordinaire, ce moment où juste... Elles font de différence. Hein, mais ça, on peut tous fondre homme, femme. Enfin, voilà. La différence, l'altérité absolue. Et puis il y a le soin aussi. Il tombe, c'est quelqu'un qui prend soin, et ça je trouve ça très beau. Donc il va prendre soin d'Olga, qui est la pute, la paria du village. Donc là pareil, moi j'éprouve ça souvent de voir que quand j'arrive dans un village, il y a des gens qui vont prendre soin de moi, des hommes ou des femmes. Mais Kafka va vraiment l'orienter là-dessus. Et puis il y a la femme du maire. Il y a la femme du maire qui, elle,
la femme du plus gros opposant.
Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est assez beau parce que on sent qu'elle aimerait quelque chose. Elle aimerait partir. Elle aimerait un voyage avec ce Kafka, ce K. Hein, vous avez vu,
pardon,
il s'appelle K, Kafka. Il a choisi. Il y a quand même une auto-identification chez l'auteur assez simpliste. Et voilà, son personnage principal, il l'appelle K et c'est pas pour rien.
Ouais. Et est-ce que d'ailleurs c'est des choses que lui-même, au-delà de les transcrire, les vivait un peu? Parce que ça me faisait penser, quand tu dis il lit et il s'inspire des gens avec qui il travaille, à la conférence gesticulée, bon, à l'époque, hein, mm-hmm. Est-ce que c'est des choses qu'il avait vécues quand même?
Oui, Kafka, Kafka était un... Alors déjà, c'était un homme très malade, très malingue. Il était juif dans cette Europe qui devient de plus en plus antisémite. Donc il se sent étranger tout le temps. Et quand il arrive dans des villages pour se faire soigner, ben voilà, il y a des... Donc il va dans des sanatoriums, etc. Et il a cette étrangeté séduisante du gars qui arrive de la ville, qui est lettré, qui est... Donc oui, il y a une projection biographique évidente chez lui. Oui.
Alors donc ce message qui est transmis donc par ce livre, Le Château, et puis par la pièce Nous sommes tous des cas, quand même, tu dis nous sommes tous des cas. Alors à quel moment la mise en scène ou ton travail va nous permettre à tout un chacun de s'identifier réellement à ce que vous proposez à la Fabrique des Petites Utopies?
Mais je crois qu'on est tous en situation d'être étranger à un moment donné. Alors, évidemment, ici comme ailleurs, on voyage. Et dès qu'on voyage, on devient l'étranger de l'endroit, donc de ce nouvel endroit où on arrive. Et je pense que c'est là où Kafka, il est très fort, et j'espère que modestement, avec notre mise en scène, on le retransmet. C'est que, oui, voyager, bouger, quitter vos maisons et aller par les chemins, et vous rendrez compte que tout d'un coup, on vous rejette, mais en même temps, vous intéressez par votre démarche, etc. Donc j'espère qu'on est tous des cas, on est tous en situation d'être potentiellement rejetés, potentiellement avec un travail. C'est vrai que c'est drôle, le préambule que tu fais, nous arrivons, nous, troupes itinérantes, chez vous, et c'est inconsciemment qu'on vient avec ce premier spectacle. Nous sommes tous des cas, ouais, nous sommes tous des
fort,
étrangers. Ouais, j'avais pas fait attention, mais maintenant que tu le dis, on arrive avec notre différence, c'est sûr, bien sûr, et on a soif de cette rencontre. L'instituteur, quand K va voir l'instituteur du village, l'instituteur le regarde étrangement, et K lui dit, mais j'ai tout à apprendre de vous, j'ai vraiment envie d'apprendre de vous. Notre démarche, elle est aussi de se nourrir d'un territoire, de travailler avec des gens, de les rencontrer. Je passe mon temps le matin au bar à écouter les petites histoires. J'ai envie d'écrire sur votre territoire.
Ah ouais,
ouais, bien sûr.
Ah, attention, on va être singé, donc. Mais c'est quelque chose qui est quand même constant, en tout cas dans peut-être ta démarche, mais je l'ai déjà entendu quand on a fait ce premier interview donc l'année dernière. Vous avez beaucoup voyagé, vous êtes allé en Afrique, tout ça. C'est quoi en fait, au fond, qu'est-ce que tu cherches pour une autre circuit?
Je cherche à dire qu'il y a toujours eu deux peuples, des nomades et des sédentaires, et qu'on est là pour s'approcher, pour se nourrir réciproquement. Moi, je suis fasciné par les sédentaires, hein, mais sincèrement, je trouve qu'il n'y a pas plus beau qu'un éleveur de vignes. Mais moi, je suis le nomade de passage, et j'espère que je peux lui apporter quelque chose. Voilà, donc c'est cette...
Quand tu parlais de voyage tout à l'heure, tu penses que, par exemple, si les gens voyageaient un peu plus, on aurait moins de réflexion
J'en sais rien.
Anti-autre.
Ça, je peux pas savoir. Ce que je sais, c'est que j'aime la rencontre des gens où je vais. On vient de tourner 2 mois au Maroc, où les gens voyagent pas forcément beaucoup, ont pas la chance ou l'opportunité de venir en France. Je sens une curiosité, un intérêt que j'ai pu retrouver en Russie, en Birmanie, partout où on va. Et je sens la même curiosité. Hier, on était en répétition publique, j'ai senti un appétit. Ah bon, vous avez créé ça. On l'a adapté au Bénin. On était au Bénin pour commencer le travail d'écriture de Nous sommes tous des cas. Donc voilà, on est porteur d'univers que tout le monde ne peut pas croiser tout le temps, parce que même si on part 15 jours en vacances quelque part, c'est pas la même chose que notre vie à nous qui est quasiment 10 mois par an sur les routes.
Et tiens, je pose une question annexe comme ça, mais quand tu tournes au Maroc, en Russie ou je ne sais où encore, vous le tournez dans la langue du pays ou c'est en français?
Non, on fait un gros travail de réadaptation en langue. Je ne veux pas de doublage, j'adore les films sous-titrés, mais je trouve que le spectacle vivant, ça s'y prête mal. Donc on rebascule, on retravaille, on réintègre des acteurs russes, mexicains, voilà. Là, Rue des voleurs, l'acteur marocain a fait un énorme travail. On a rebasculé un tiers du spectacle en marocain, en darija. Voilà, donc oui, on essaye d'être à la rencontre, vraiment, sincèrement. On met notre énergie là-dedans.
Carrément, mais ça on le savait pas, tiens.
Bah non.
Et voilà.
Voilà.
La fabrique des petites utopies, donc c'est pas une petite utopie que de vouloir se croiser tout le temps et dans le bien-être, ce que tu nous décris depuis un petit moment déjà. Est-ce que on pourrait parler des projets suivants de cette
volontiers
année après Nous sommes tous des cas?
Volontiers. Eh bien, j'aime vraiment réussir à raconter le monde aux enfants aussi. C'est pour moi. Quelque chose d'important, parce que je trouve que il y a des petites graines.
C'est mieux de s'y prendre tôt. Même.
Voilà, c'est ça, des petites graines qui peuvent pousser tôt dans la tête des enfants. De jolies graines, et toujours sur cette idée d'altérité. J'arrive pas à m'en défaire. Et donc, Nyama Nyama, qu'on vous présentera lors de la fête de la transhumance, on va installer notre troupe qui va raconter les origines du monde. C'est un spectacle qui est vieux, il a presque 10 ans maintenant. On l'avait écrit au Burkina Faso. J'avais fait un travail de collecte de contes qui sont...
La tradition orale.
Ouais, tradition orale, tradition de l'étiologie, hein, les contes qui racontent comment sont venues les choses. On appelle ça des contes étiologiques. Comment est née la lune, pourquoi les hommes ont changé de couleur, pourquoi les hommes se sont mis à marcher, les hommes machin chose. Enfin, voilà. Donc on a fait tout un spectacle qui est une petite mise en abîme de nous-mêmes, une petite troupe de comédiens avec son chariot qui parcourt le monde pour raconter des histoires. Tu vois, donc c'est basique, hein, d'un point de vue dramaturgique, c'est basique. Mais on va raconter en 5 contes comment les hommes et pourquoi les hommes ont changé de couleur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette griotte du Burkina, en fait, savait ce que les scientifiques savent, en fait, hein, la dépigmentation en voyageant.
On commence noir. Hein.
Voilà, on commence tous noirs. On était tous noirs. et la dépigmentation n'est pas une maladie, mais est un phénomène naturel lié à un peu moins de soleil. Donc voilà, on va raconter ça. On va raconter pourquoi la tortue voyage, par exemple, hein, avec sa maison sur le dos. On va être comme ça sur des contes vraiment de pastoralisme, hein, et donc à nouveau des nomades, hein, puisque vous fêtez, et j'en suis tellement heureux de participer à ça, mais dans tous les pays où j'ai pu voyager, les nomades sont les pasteurs, hein, les bergers et autres hommes de troupeaux, quels qu'ils soient. Donc les peuls, je sais que vous aviez célébré les peuls d'ailleurs lors d'une fête de la transhumance. Ouais. Vraiment, ce sont des hommes et des femmes qui ont inventé des histoires pour dire « n'ayez pas peur de nous, nous voyageons mais pour notre bétail, et notre bétail c'est votre lait, c'est votre fromage ». Et ça, voilà, je me suis nourri de cette culture-là au Burkina Faso, et c'est ce qu'on viendra vous raconter lors de la fête de la transhumance.
Ouais, et puis j'ai bien aimé cette dernière phrase là parce que maintenant, voilà, n'ayez pas peur de nous, éleveurs. Il y a un vrai conflit dans notre territoire avec tout ce qu'on sait autour du loup, par exemple, et qui ne cesse d'occuper ces dernières fêtes de la transhumance. Alors, ça pourrait être une occasion de, oui, de enfin se parler encore.
Ouais, ouais, encore et toujours. Ouais.
Ouais. Et donc spectacle jeune public, ça c'est voilà, aussi quelque chose que tu disais aimer faire. Vous en avez plusieurs de spectacles comme ça.
Ouais. J'aime raconter aux enfants et surtout on écrit avec les enfants. On a donc créé cet été un spectacle qui va continuer de vivre le mystérieux voyage en forêt, qui est écrit auprès d'enfants. On continue à les aider.
Vous avez joué à Diolfi, là, c'est ça, là, non?
Alors, à Diolfi, on en avait joué un autre. On avait joué
en forêt aussi.
Oui, en forêt. Ah oui, j'adore les arbres. L'équipe se moque de moi tout le temps. Je ne cesse d'écrire. Sur les arbres. Oui, je ne sais pas pourquoi. Je sais que c'est très bien. Je trouve que l'arbre est une tellement belle allégorie que, voilà. Donc, on a un spectacle qui s'appelle La nuit, les arbres dansent. Mais ça, tout le monde sait que les arbres dansent la nuit. Et on a un mystérieux voyage en forêt qui est un spectacle qu'on a écrit avec des enfants pour raconter la magie du végétal. Ouais, ouais.
Avec des enfants, donc dans le cadre d'actions que la compagnie des Petites Utopies mène auprès des jeunes publics, des classes.
C'est ça. C'est l'idée, là on travaille avec l'école primaire de Die, donc on les prépare, on leur fait jouer Nyama Nyama, là, par exemple, déjà, pour qu'ils... alors, ils jouent une version courte, mais on peut aussi faire quelque chose que je trouve très important, faire de l'invention d'histoires collectives. Donc on vient et on invente avec les classes des histoires. C'est quelque chose que je trouve important dans notre monde, peut-être où on est trop formé tout seul, en fait. L'école forme, on doit savoir faire ça seul, on doit savoir... moi, je trouve que c'est important d'inventer en collectif. Donc, le mystérieux voyage en forêt, c'est 4 contes inventés avec des classes. On en avait inventé une vingtaine et j'ai choisi les 4 qui me semblaient les plus jolis pour raconter le monde.
Décris-nous un peu ton travail, justement, quand tu fais de la coécriture avec des enfants.
Comment le raconter ? Je pars d'un... Alors, évidemment, donc, le thème, ça va être l'arbre. Assez vite, j'ai envie de leur dire... mais quel est l'arbre qu'ils aiment le plus? Et puis donc on va en choisir un. Et donc j'ai tout un système d'exercices qui permet d'écriture en relais, par exemple, l'écriture en brainstorming. On va faire une tempête d'idées. On va faire... Et petit à petit, on va construire une trame qu'on va re-raconter et qui, parce qu'on la re-raconte, elle s'ajoute, des idées s'agrègent et d'autres s'en vont. Et donc je vais faire jeu de filtre poétique, si tu veux, où je vais... Oh là, l'idée de Clémentine, c'est vraiment joli, il ne faut pas la perdre. Et on va agréger comme ça, un petit peu comme un petit muret de pierre, où chacun pose des pierres, et puis on va les ajuster petit à petit jusqu'à avoir un petit four à pain.
Donc vous rejouez plein de fois
On rejoue plein de fois, voilà, ouais, jusqu'à se raconter une trame. Et puis, donc c'est de l'écriture orale. Et puis là-dessus vient le filtre de l'écriture démultiplié par le groupe classe et l'institutrice. Et puis après, par le filtre du jeu. Donc, en 3 heures, on a une histoire, on a systématiquement une histoire. Toutes ne sont pas magnifiques, mais toutes sont des histoires écrites à 30. Donc, 30 petites cervelles d'enfants, ça écrit forcément une belle histoire.
Ouais, ouais. Ça rêve encore.
Toujours.
C'est ça que du coup tu cherches dans ces choses-là. Est-ce que tu rêves plus assez, Bruno?
Ah non, je rêve beaucoup. Je rêve beaucoup, mais je sais que je rêve mieux à 30 que seul. Ça, là, par contre, ça, je suis certain. Alors là, c'est évident. Mais c'est juste mécanique. Il n'y a aucune raison pour que 30 cervelles rêvent moins bien qu'une.
Parce que c'est rigolo ce que tu dis. Tu peux en écrire 20 contes comme ça avec donc à chaque fois 30 cervelles différentes. Et finalement, tu en choisis 4. Il y a quand même un truc... De toute façon, tu les as toutes écrites, au fond, un peu, ou vécues.
Je les ai toutes vécues, je les ai fait vivre. Après, j'ai l'ambition de Pirandello d'en écrire 365, mais sauf que je sais que ce n'est pas moi qui les aurais écrites, mais 365 fois 30, donc on sera à 30 000 à les avoir écrites, en fait. Donc, c'est beaucoup d'imaginaire partagé, et finalement, c'est aussi une façon de raconter qu'on a un en commun qui est incroyable sur l'arbre, parce que tout tourne autour de l'arbre, la plante, ce soin que nous donne la terre, en fait. On lui doit du soin, mais elle nous le rend bien.
Et en tant que metteur en scène, est-ce que les phases de jeu avec les enfants sont aussi source d'inspiration ?
Mais c'est toujours la même chose, et on y revient sur que ce soit la thématique du nomade et du sédentaire, de l'enfant et de l'adulte. Comment la perception de l'autre me nourrit ou au contraire me m'enferme ? Soit l'autre me réjouit parce qu'il il me fait jouir deux fois de ce que je suis et de ce qu'il est, hein, réjouir au sens littéral, soit au contraire il m'enferme et me fait dire ah l'autre il est pas comme moi donc il me dérange. Bah je vous assure que l'autre peut nous réjouir.
Me marre sur ce que tu me dis.
Ben écoute, je vais te dire les projets suivants puisqu'ils vous concernent très très directement.
Ah tiens.
Et oui, puisque je vais faire une résidence d'écriture de plus, on va travailler à nouveau en grand collectif pour écrire nos guerres de clochers. Je crois qu'il y a...
Ah c'est ça là, tu voulais écrire sur le Diwa.
Voilà, c'est ça. Oh, sur le Diwa et ailleurs, parce que les guerres de clochers...
En fait, c'est pareil, c'est encore un truc qui va être acceptable par tout le monde.
Bien
partout.
Sûr, bien sûr, ouais. Évidemment, parce que on, partout où que j'aille, d'ailleurs c'est assez drôle, parce qu'on me dit, ah bah c'est parfait pour ici. Les arbres, tout le monde se soucie d'arbres, au fin fond du Mexique comme ici. Et puis les guerres de clochers, je vous assure qu'il y en a eu partout. Mais là, c'est vrai que j'ai envie de ce travail-là de collecte, parce que justement, que l'histoire, que notre histoire passée nous fasse être vigilants sur l'histoire à venir. Les religions, les textes religieux sont faits pour relier et non pour prendre le pouvoir. Et le peu que je peux, pour l'instant, découvrir des guerres de religion, c'est que ce sont historiquement des guerres de pouvoir. Protestants contre catholiques n'étaient que des guerres de pouvoir, hein, puisqu'en plus de ça, elles reposaient absolument sur les mêmes textes, sur les mêmes valeurs. Hein, ces religions-là sont absolument...
Même le même Dieu. Même.
Le même Dieu, donc voilà. Et aujourd'hui, c'est exactement pareil. L'islam et le message chrétien sont très très proches. Après, il y a des gens qui prennent pouvoir et qui disent qu'ils font des choses au nom des religions, mais ils sont très très loin du message des textes sacrés dont ils parlent. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de raconter nos guerres de clochers en rappelant bien que ce sont des guerres de pouvoir et non des guerres de religion.
Et ça va un peu plus loin d'ailleurs, ce terme de guerre de clochers, c'est les petites guerres qui se passent dans les villages, entre des familles ancestrales des fois, ou au contraire les nouveaux arrivants.
Ah mais le pouvoir, les guerres de pouvoir, on peut les voir à l'échelle macro, c'est-à-dire se dire que c'est tel duc qui était contre tel châtelain, etc. Et donc ça, c'est vraiment les guerres de religion telles que je peux les découvrir petit à petit. C'était vraiment des... Mais ça se passait aussi et à toute petite échelle, en effet. Hein, on va profiter pour abattre le clan de l'autre, on va profiter pour s'accaparer la terre de l'autre. Parce que, non, c'est en effet, bien sûr, on est tous en situation de pouvoir.
Mais ces guerres-là, là, dont tu parles, même ces conflits entre familles dans des villages, viendraient quand même au départ de quelque chose de religieux tu...
Ah non, mais moi je pense l'inverse, ouais. C'est que ça ne vient pas de religion. On se sert de la religion pour s'accaparer de l'autre, de la femme de l'autre, de la maison de l'autre. Mais je pense que le prétexte, il est là. Parce que si on lit les textes, on voit que ces textes-là sont faits pour apprécier l'autre, pour être reliés. Hein. Ouais. Souvent, j'explique qu'on intervient beaucoup dans les classes pour dire mais le djihad, ça veut dire l'effort. Et c'est avant tout un effort sur soi, par exemple. Donc, oh, ah bon, le djihad, c'est pas la guerre sainte, pas du tout. C'est une guerre sainte au sens être un saint homme. Donc au sens vraiment...
Une bataille personnelle.
Une bataille personnelle, bien sûr. Alors les gamins, ils me regardent, ah bon, on nous dit jamais ça. Ben oui, évidemment qu'on vous dit pas ça, puisque les enjeux des guerres de religion aujourd'hui sont la vente d'armes massives, sont créer un ennemi. Donc ça a juste changé d'échelle, mais on est... Voilà.
Malheureusement, pas trop changé, c'est ce que tu veux dire.
ce que je veux dire, c'est que regardons ce qu'on a fait, nous, dans nos territoires, comment on a pu massacrer à tour de bras, ouais. Quelles que soient les époques, et pourquoi on a massacré.
Et normalement, notre histoire devrait nous permettre d'avancer.
Voilà, mais bon. Exactement. Mais un peu, moi, et en même temps, tu vois, je ne suis pas du tout quelqu'un de morose. Je suis très optimiste, en fait, hein, parce que je voyage trop pour voir tout ce qui marche. Vraiment. J'ai quand même vu et vécu la dictature birmane et voir qu'un jour, la plus grande opposante peut devenir la première dame du pays. Donc, des choses changent. Et ça, c'est la force de l'art, de la parole. Donc, ouais, j'y crois.
Tu avais commencé à nous dire aussi que ça nous concernait directement, cette guerre de clochers.
Oui, parce qu'on va faire un travail de collecte, on va se nourrir des pierres d'ici, on va se nourrir des histoires d'ici. Moi, j'ai évidemment en tête ce que tout le monde connaît ici, ce monastère de Sainte-Croix avec ses deux clochers côte à côte, le clocher de l'église protestante et le clocher de l'église catholique dans ce même monastère. J'ai envie d'écrire à partir de ces pierres-là, inventer des histoires, les collecter. Donc voilà, on va faire tout un travail au moment de notre résidence pendant la fête de la transhumance. Et donc, on va venir collecter et écrire collectivement des histoires pour ce spectacle, Nos guerres de clochers.
Ça me fait penser à deux villages qui sont l'un en face de l'autre au bord de la Drôme, enfin pas très loin de la Drôme. Et donc il y en a un, c'est son église qui est devenue une salle des fêtes, et l'autre c'est le temple qui est devenu un lieu de spectacle.
Ah bah voilà,
c'est
parfait.
Bizarre comment un coup l'un est recyclé et pas l'autre, et donc ça donne aussi une orientation.
mais peut-être qu'il y a d'ailleurs quelque chose à inventer ensemble, hein, des dizaines d'histoires de patrimoine qu'on échangerait tous ensemble, et puis après qui redonne nouvelle trame pour faire un spectacle.
Plein de belles choses à l'avenir avec la fabrique des petites utopies. Tu nous le rappelais, vous êtes là pour 3 ans en fait.
Mmh, oui.
Donc c'est cette première année à nos côtés, à côté du théâtre de Die. L'année prochaine, c'est déjà pensé.
Et ben voilà, c'est nos. On préparera en mai-juin Nos guerres de clochers, qui sera la création de la rentrée.
De la rentrée, donc 2017.
Voilà, c'est 2016. Hein, 2016. C'est octobre 2016, on viendra jouer Nos guerres de clochers.
Et après, vous êtes déjà en train de projeter dernière
année.
Oui,
on projette déjà, oui, on projette. Là aussi, je pense quelque chose qui est important à inventer, à partager ensemble, la folie du monde économique. Un spectacle qui va s'appeler Mondofolie. Comment faire face à cette folie du monde économique? Donc un spectacle qui mélangera magie, cirque et politique.
Bien, allez, on n'en dit pas plus, va se revoir de toute façon.
On se reverra, oui.
Ouais. Nous sommes tous des cas, c'est pour quand?
Et c'est pour samedi 30 janvier. Nous sommes là dans le théâtre de Die. Du théâtre burlesque, du théâtre de Tréteaux et du théâtre politique, toujours.
Et après, il va tourner un peu.
Ça tourne, on part en Belgique, on part en Isère, on part. Où est-ce qu'on va ensuite Voilà, on tourne en Rhône-Alpes avec le spectacle.
Et sur le camion, est-ce que vous allez en profiter pour le faire tourner aussi sur le territoire?
Oui, on devrait revenir avec le camion sur le territoire avec un spectacle très important aussi, Les Enfants d'Icare, un spectacle jeune public sur le fait que nous sommes fabriqués, nous tous, toi, moi et tout le monde, on est composé de plein d'êtres différents. On n'est pas monolithique en fait. Donc,
on a l'impression d'avoir une pensée, mais il y a 15 000 petites cellules déjà qui vivent indépendantes.
C'est ça. Ouais. Voilà.
Ok. Eh bien, voilà, on va se tenir au courant. Pour la suite, on se reverra sans doute dans notre circuit. Tu nous glisseras aussi quelques-uns de tes comédiens parce que.
Oui, ravi, bien sûr.
On en profite. Ou même des techniciens ou des costumiers.
Bien sûr.
Voilà. C'est rare qu'on en ait ici.
Quand tu veux.
Bah, très bien. Donc les rendez-vous vont être pris. Je te remercie. Merci également au Théâtre de Die. Il y avait Alexandre là-bas dans un coin, puisque tu l'as cité tout à l'heure. On va dire qu'il était là quand même. Et donc à bientôt sur cette antenne.
À très bientôt. Merci.
Interview.
Ok. Hey, the bird.
L'interview du jour.